Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission d'après-course du Bulletin GP dans le cadre de ce, on peut le dire, shit show qui a été le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2021 disputé dans les rues de Jeddah. Abdou Sal avec vous et je suis en compagnie d'une autre personne qui n'a pas tant apprécié le spectacle, Jean-Sébastien Barbeau. Salut Jean-Sébastien.
Salut Abdou, et d'entrée de jeu, je dirais une chose. La dernière fois qu'on s'est parlé, toi et moi, on s'était amusé à faire le top 5 des circuits qu'on ne voudrait plus jamais revoir en Formule 1. Bien, j'aimerais pouvoir faire un top 6 aujourd'hui et ajouter maintenant Arabie Saoudite.
Ouais, et moi, j'ai une seule chose à dire par rapport à ce Grand Prix.
Fucking hell!
Ouais.
Non, c'était horrible.
C'était horrible.
C'est pas horrible uniquement en raison du circuit, en raison des polémiques, en raison des nombreux incidents qui font en sorte que ce Grand Prix est devenu détestable. Okay. Et on le savait sur papier là, que ça allait potentiellement ne pas être très intéressant.
Bon, ouais, écoute, tu vois, ça a été fou. Ça a été fou et tout, mais pas pour les bonnes raisons.
Pour les mauvaises raisons.
Exactement. Et c'est ça que j'ai dit aussi sur mon compte Twitter. C'est que maintenant... Le Grand Prix de Belgique n'est plus la course la plus... Ce n'est plus la pire course de la saison. Carrément, là.
Ouais, c'est Arabie Saoudite. Mais il y a une seule personne qui ressort gagnant de tout ce Grand Prix. Enfin, deux. Un, c'est Lewis Hamilton parce qu'il se remet à égalité au championnat. Littéralement égalité.
Mm-hmm.
Et deux, Netflix pour des raisons assez évidentes qu'on verra au mois de mars.
J'espère qu'ils étaient... Est-ce qu'ils étaient là? Parce que je ne les ai pas vus, mais...
S'ils n'étaient pas là, ils vont s'arranger pour être là.
Ouais. Ils vont essayer de soudoyer. Ben, je pense quand même que ce sont les caméramans de la Formule 1 qui sont là en plus. Alors, ouais.
Donc, allez, attaquons le dur.
Attaquons le dur tout de suite.
Parce qu'il y en a beaucoup à parler.
Ouais. Est-ce que je donne tout de suite le classement?
Oh, ben, faut quand même, hein.
Ouais, OK. Donc, Lewis Hamilton a gagné le Grand Prix en 2h06, qui en a paru comme étant 5. Avec le point du meilleur tour, ça c'est le jeu qui commence à faire son effet. Max Verstappen finit deuxième. Valtteri Bottas passe Esteban Ocon au photo finish, si on peut dire. Il y a carrément un dixième qui sépare Bottas de Ocon.
102 millièmes pour être précis, et Esteban Ocon aurait dû être le plus du jour.
Définitivement. Daniel Ricciardo finit quatrième. Pierre Gasly...
Cinquième.
Je disais quatrième, mais cinquième, effectivement. Pierre Gasly, sixième. Sa position préférée en qualification. Charles Leclerc et Carlos Sainz, septième et huitième. Le Jésus de la Formule 1, Antonio Giovinazzi, marque des points à son avant-dernier Grand Prix en Formule 1. Et Lando Norris termine dixième. Et il y a eu... 5 pilotes qui ont abandonné. Mick Schumacher, George Russell, Nikita Mazepin, Sergio Perez et Sebastian Vettel. Les 5 abandons sont tous causés par des accidents. Quelle surprise. Ben, heureusement, personne n'a été blessé, en fait, dans ces accidents parce que c'était d'une violence... Oui, vas-y, Jean-Sébastien.
Oui, parlons déjà de l'accident de Mick Schumacher, allons-y dans l'ordre, parce que je pense qu'il y a juste une seule façon de pouvoir voir le Grand Prix, c'est par les incidents qui se sont déroulés.
Oui.
Mick Schumacher qui est sorti violemment au virage 21, 23, je sais que c'est un chiffre impair.
Ouais, à peu près, oui.
Dans ces eaux-là, dans ces eaux-là, donc sorti très dur, un peu comme à la façon de Charles Leclerc vendredi lors des essais libres. Mm-hmm. Et chose qui était assez particulière, c'est que la voiture de sécurité est restée très longtemps. Elle est restée plus de 10 minutes en piste avant qu'on décide de mettre le rouge. Et c'est là qu'on peut déjà se poser la première question. Une série de voitures se sont arrêtées, à l'exception de Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon et peut-être un ou deux autres que j'oublie de mémoire. Mais ça a été une stratégie très risquée dans la mesure où ils ont parié sur le drapeau rouge parce qu'ils pensaient que ça allait prendre du temps. chose qui est arrivée. Le drapeau rouge a été envoyé sur le circuit après 10 minutes sur la voiture de sécurité, après 5 tours sur la voiture de sécurité, ce qui est une éternité. Mais on s'y attendait parce qu'un accident comme celui-là prend du temps à replacer les barrières Tech Pro. Il faut quand même sortir la voiture. Il y a beaucoup de pièces endommagées. Il y a des morceaux de fibre de carbone un peu partout. Donc, ça prend du temps à nettoyer. Donc, ouais. C'est pas particulièrement étonnant de voir que le rouge arrive. Mais moi, j'aurais pensé qu'on aurait mis le rouge tout de suite, tu vois.
Ouais, moi, ça a pris du temps hein, parce que la barrière, au final, effectivement, elle était endommagée. Et pas à peu près parce que... Je pense qu'on a vu à quel point ça a été quand même un gros impact. Certes, mais quand même, ça a pris un peu de temps avant de brandir le drapeau. Je comprends que, évidemment, dans ce genre de situation, tu dois regarder est-ce que c'est faisable de continuer la course comme ça. Mais quand tu regardes que la barrière est complètement endommagée, c'est un rouge direct parce que tu joues pas avec la sécurité des pilotes et du personnel alentour aussi.
Oui. Et donc, dans ce cas-là, on peut se poser comme question, est-ce qu'il faudrait pas introduire un nouveau règlement? Si on pense que c'est correct, oui, on maintient le jaune, c'est bien, mais au bout de 10 minutes de jaune, il devrait y avoir un rouge automatique. Une espèce d'élément de sécurité parce qu'on aurait pu rester très longtemps sur la voiture de sécurité encore une fois.
Mm-hmm. Ouais, carrément, parce que c'est fou. On a pensé, quand je disais que ce Grand Prix avait des allures d'une course de 5 heures, c'est parce que ça a surtout été à cause de...
Ça ressemblait à une course de NASCAR, pour les mauvaises raisons que le NASCAR est.
Ben, quoi que, au moins ils ont amélioré le spectacle, mais remarque quand même... je crois que on ne veut pas lésiner, surtout qu'avec la course de Formule... Et surtout le fait que, avant de parler de cet incident de Formule 2, il y a eu... le circuit a été homologué, genre, mercredi, jeudi, alors que normalement, c'est 120 jours avant le début de l'épreuve pour être homologué, 90 pour des circuits permanents. Alors, évidemment, le circuit en tant que tel était prêt. Certaines infrastructures ne l'étaient pas. Heureusement qu'il y avait des barrières Tech Pro, parce que si c'est sur le mur carrément, là...
Ben à ce virage-là, il faut quand même souligner qu'il y avait trois barrières de Tech Pro, trois barrières de pneus. Mm-hmm. Donc, quelque chose pour bien encaisser le choc. Et tant mieux, parce que la voiture, dans ce coin-là, arrive à plus de 240-250 km/h à peu près, sauf erreur.
Ouais, c'est un virage rapide.
Oui, c'est un virage très rapide, comme celui de Charles Leclerc, là aussi, il y a beaucoup de barrières. Donc, c'est bien de voir au moins qu'il y avait des barrières Tech Pro qui étaient là. Mick Schumacher quand même sorti un peu sonné, mais bon. Donc, drapeau rouge, finalement, au bout de 10 minutes. Donc, ce qui veut dire, on peut toucher la voiture, on peut faire ce qu'on veut avec ou presque. Mm-hmm. Donc, changement de pneu gratuit, ce qui permet à Max Verstappen de pouvoir reprendre le Grand Prix en tête. Comme Martin Brundle ensuite a dit sur Sky Sport, est-ce que c'est un règlement qu'il faudrait revoir? Peut-être. Est-ce légal? Certainement. C'est comme ça. C'est dans les règles. Assumons-le pendant que le règlement existe. Est-ce qu'il faut le revoir? Légitime question. Là-dessus, la polémique, je pense qu'elle doit s'arrêter là. Après, c'est juste à réfléchir. Est-ce qu'il faut autoriser ou non le changement de pneu? C'est pas la première fois qu'on voit ça. On l'a vu à Imola cette année. On l'a vu à Monza l'année passée.
Oui, surtout Monza.
Surtout à Monza. Donc, à déterminer, on semble être beaucoup plus conservateur sur le fait s'il faut maintenir le jaune ou le vert. On est plus prompt à lancer un rouge maintenant. Est-ce qu'il faut revoir le règlement? Peut-être. Mais à partir de là, le débat, il n'est plus de notre côté. Il est carrément du côté de la FIA.
Ben, tu vois, je crois que c'est quelque chose qui est nécessaire à faire. Que je pense que la règle en tant que telle, certes, elle avantage plusieurs, mais c'est pour éviter qu'il y ait des problèmes. Parce que si on revient avec une voiture dont les pneus sont endommagés, ça peut causer des problèmes, une crevaison, surtout sur un circuit comme celui de Jeddah, très rapide. Et évidemment, on ne lésine pas avec la sécurité. Donc, je crois que le règlement en tant que tel, il est correct. Certes, ça a des avantages. Ça a des avantages. On pourrait comme dire, c'est un unfair advantage. Mais c'est pour des raisons de sécurité. Encore là, est-ce que on pourrait trouver un moyen de reprendre ce règlement et de le modifier sans nécessairement garder l'essence en tant que telle? Je pense que oui.
Ouais, bon. Donc, ça reste une vraie question. Clairement, on n'en a pas fini d'en parler de celle-là. Dans ce cas-là, il aurait juste fallu sortir le rouge automatiquement. Mais bon, c'est peut-être plus difficile à prévoir. Ou sinon, l'autre possibilité, c'est de dire aux voitures d'attendre 2, 3, 4 tours, que ce soit à l'avant-dernier tour où le changement de pneu peut être autorisé.
Mm-hmm.
Mais là, après, on crée un autre problème, double stacking.
Oui. Oh, le double stacking, surtout dans le cas de Bottas aussi, parce qu'on parle beaucoup de ce qui s'est passé après, mais Bottas qui a ralenti un peu, c'est comme il s'est passé un peu la même chose avec Lando Norris l'année dernière en Italie, avec cette histoire de voiture de sécurité où il a ralenti et tout. Mais au moins la FIA n'a rien dit là-dessus, donc je pense qu'on peut passer à autre chose aussi. Mais pour vrai, le double stacking aussi, c'est un problème en soi.
Oui, c'est un problème en soi. Et Mercedes le fait pour cet enjeu, pour que ça marche assez bien. Mais bon, ça reste une autre polémique. À mon avis, c'est pas la principale. Il y a des choses beaucoup pires qui sont à discuter, notamment la relance.
Mm-hmm. Et tu vois,
La première relance.
Et tu vois, juste avant de parler de cette première relance, il y a Karen Chandok sur Twitter qui a dit concernant le changement de pneus sous le drapeau
Dumb
rouge. Dumb rule. Et devine, il cite de ça de qui? Un certain Jimmy Johnson. qui a dit qu'on peut changer les pneus en Formule 1? Qui a appris qu'on pouvait changer les pneus en Formule 1. Donc, ouais, c'est une règle. C'est une règle, certes, désavantageuse pour plusieurs, mais qui est là pour des raisons sécuritaires. Je pense que ça peut être changé parce que, sérieusement, ça. C'est quelque chose que beaucoup de gens vont se plaindre ad vitam aeternam.
Oh oui, clairement.
Bon, on parle tout de suite de cette relance.
Oui, donc la première relance au tour numéro 15-ish.
Ouais.
Donc, ouais. Max Verstappen est premier, Lewis Hamilton est deuxième et Esteban Ocon est troisième. Départ assez exécrable de la part de Max Verstappen. Bon départ de la part de Lewis Hamilton. On arrive au virage numéro 1. Lewis Hamilton essaie de prendre l'extérieur. Non, c'est plutôt le contraire. Il prend l'intérieur et Max Verstappen est sur l'extérieur. Coupe le virage numéro 1. Coupe dans le virage aussi numéro 2 qui suit immédiatement. Se ramasse devant. Lewis Hamilton est un peu déporté. Et Esteban Ocon arrive à passer au travers. Et c'est lui qui, visiblement, mène le Grand Prix. Donc, polémique là. Est-ce qu'il y a eu du hors-piste? La réponse, oui, clairement.
Mm-hmm.
Dans sa malchance si on peut appeler ça une malchance à Max Verstappen, je me demande s'il avait pris normalement le virage, qu'est-ce qui serait arrivé parce que Valtteri Bottas est arrivé comme une balle derrière, il a fait des cloques sur ses pneus. Je me demande même s'il ne serait pas rentré dedans sinon.
Une chance, mais je pense qu'en temps normal, il y aurait eu. Si Verstappen avait réussi son virage, je pense qu'il y aurait eu contact entre lui et Hamilton. Je pense que ça aurait été clair.
Ça, oui. Il y aurait sans doute tout ça aussi qui serait arrivé. Donc,
ouais, je pense que...
Donc, visiblement, la polémique ne finit pas là parce qu'évidemment, on se dit, bon, on peut laisser la place à l'autre et tout. La polémique va enfler drastiquement dans la mesure où il va y avoir un drapeau rouge qui va arriver rapidement à la suite d'une collision par Sergio Perez qui se fait rentrer dedans par...
Charles Leclerc,
voilà. Et donc là, dans une partie du circuit où c'est très serré et rapide, une autre voiture a aussi perdu le contrôle et en la personne de Nikita Mazepin qui aurait pu se faire très... très mal parce qu'il est rentré dans le derrière de la voiture de George Russell, oui.
Ouais.
Ça aurait pu très mal finir pour Nikita Mazepin, disons-le, parce qu'un accident comme celui-là, ça fait mal. On l'a vu ce matin, parce qu'on enregistre dimanche, une heure après la fin du Grand Prix, Théo Pourchaire et Fittipaldi ont eu une collision au départ. La voiture de Pourchaire a calé au départ et on sait que ça, c'est très dangereux. On se souviendra de Montréal 82. Voilà. Aussi pour Perez, ça aurait pu très mal finir parce qu'il était sur le côté. Ils auraient pu nous faire une Alessandro Zanardi et Alexandre Taglioni. Ça n'aurait pas été impossible. Donc, sur ce coup-là, ces deux pilotes-là ont été très, très chanceux de s'en sortir sans blessure. Et au moins une frousse, disons-le, mais au moins sans blessure.
Ah oui, puis honnêtement, pour Perez Leclerc, j'ai un peu de mal à comprendre ce qui était là, mais Russell Mazepin, les deux ont été très malchanceux dans la...
Oui, c'est pas sa faute. Ouais. C'est la faute à pas de chance. Personne n'aurait pu arrêter ça. Pour une fois, c'est vraiment, vraiment pas de sa faute.
Ouais.
Et donc, là, ce qui arrive, nouveau drapeau rouge, évidemment, ça allait de soi, parce que les voitures pouvaient passer nulle part. Et donc là, on assiste à une espèce de négociation, littéralement, entre les différentes équipes via la FIA pour savoir, dans une espèce de gentleman agreement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour reprendre le Grand Prix. Est-ce que ça t'arrange si nous, on part deuxième, lui est premier, l'autre est troisième, etc. Mm-hmm. Puis on a vu Red Bull essayer de négocier en disant est-ce qu'on peut laisser Ocon premier, mettre notre pilote Verstappen deuxième et Hamilton troisième. Ils ont essayé de jouer la non-pénalité alors que c'était, il me semble, assez clair qui aurait dû laisser sa place. Donc, il y a eu un beau jeu de négociation qui s'est déroulé qui certainement pas d'avantage de la Formule 1 là-dedans en aucun point. Tout le monde avait l'air imbécile.
Oui, oui. Le mot est juste, Jean-Sébastien. On va pas mâcher nos mots. Ça a été imbécile. J'ai jamais vu un officiel faire un deal. Que ce soit dans n'importe quel sport, bon, d'accord, dans la NFL, au football américain, canadien, bon, c'est possible. Mais dans n'importe quel autre sport, il n'y a pas de deal qui se donne pour dire, OK, si jamais on te donne la chance de te reprendre, sinon c'est une pénalité. Les règlements sont clairs et je pense que durant tout ce Grand Prix, la FIA a juste... Écoute, je comprends qu'il y a un championnat en jeu et allez réécouter notre épisode dans le podcast où on parle justement des commissaires. Mais ça a été énormément de la chenoute.
Bon, là, vous savez pas les auditeurs, mais on veut juste faire un petit montage parce que la connexion d'Abdou a des moyens soucis. On dira pas des mots vilains contre l'opérateur téléphonique d'Abdou, mais bref.
On a le même en passant.
On a le même en passant. qui commence par F.
F in the chat. F in the chat.
Et donc, on parlait justement de cette polémique qui se déroulait entre cette espèce de gentleman agreement qui se déroulait live devant nos yeux via les montages découpage télé de la FIA qui font que la Formule 1 avait l'air un peu système B ou système D, nommez-le. La Formule 1 avait l'air ridicule. Mais il ne faut quand même pas oublier que la Formule 1, c'est un élément de consensus. Le consensus est très difficile à obtenir, surtout dans un lieu où il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. La Formule 1 est ultra capitaliste, elle est ultra libérale. C'est une manière de faire qui choque sans doute beaucoup de gens, contrairement au sport professionnel nord-américain qui, oui, est résolument capitaliste, mais dans sa manière d'être construite est résolument socialiste dans la mesure où on divise les profits de part égale entre chacun des groupes actionnaires, des propriétaires, alors que la Formule 1, oui, il y a cet élément-là, mais il y a un élément très... très facile à modifier les règlements. Donc, on trouve des terrains d'entente, on trouve des éléments de commune mesure. Donc, d'un point de vue très sociologique, philosophique ou économique, la Formule 1, elle est très, très, très capitaliste, très à droite. Et donc, voir cette espèce de gentleman agreement se dérouler devant nous peut sans doute choquer jusqu'à un certain point parce que ça ne semble pas vouloir respecter l'esprit sportif, l'esprit communautaire, tout ce que vous voulez. Donc là, on a eu à faire face à quelque chose qui détonne terriblement et qui ne donne pas une belle image de la Formule 1, à mon avis.
Ah non, 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 je suis d'accord. C'est... Il y a... Écoute, Lando Norris l'a dit aussi dans l'après-course sur F1 TV. Et moi, je pense que le livre de règlement sportif... En fait, les livres de règlement de la Formule 1 devraient être... réécrit de A à Z parce que c'est pas clair.
Le règlement sportif, le règlement technique, lui, bon, ça va, je veux dire, on essaie de trouver les zones grises où il y en a, ça c'est très bien, ouais. C'est l'ingéniosité humaine. Le règlement sportif, c'est une autre paire de manches. Il y a beaucoup de problèmes, juste la durée d'un Grand Prix, quelle doit-elle être? On vous réfère au Grand Prix de Belgique. Ah. Cette idée de l'arrêt au puits gratuit sous drapeau rouge, tout le reste, il y a beaucoup de zones qui ne sont pas claires, qu'il faudrait vraiment beaucoup plus encadrer pour que ce soit très... très technique, justement, dans l'esprit sportif, mais on ne semble pas y être. Donc, ça nous a donné cette polémique-là qui je pense qu'on va en parler encore dans 20 ans. Ça me semble assez clair, oui. Mais enfin, quoi qu'on risque de l'oublier, parce qu'il y a des choses qui sont encore pires qui se sont déroulées. Donc, si on avance un petit peu, Abdou, si tu me permets,
oui.
on arrive à la deuxième relance. Donc, comme prévu, on a ce gentleman agreement qui se déroule. Ocon repart en pole, qui, au passage, pilote qui a mené le plus grand nombre de tours derrière Lewis Hamilton et Max Verstappen. Chapeau quand même là-dessus. Il faut dire aussi qu'il a gagné un Grand Prix.
Oui.
Part premier, mais tombe troisième parce que, disons-le, Max Verstappen a fait un superbe départ. Il est allé chercher dans l'intérieur. Lewis Hamilton ne l'a pas vu venir. Peut-être en fait, qu'il l'a un petit peu vu venir, mais Max Verstappen a de très bons freins. Il est allé chercher le virage numéro un à l'intérieur. Il a pu dépasser deux pilotes. Faut le souligner, ce dépassement était majestueux.
Oui, ça c'était osé, culotté, brilliant.
C'est 5 étoiles, ça. Ça, c'est un dépassement 5 étoiles. Oui. En dépasser deux d'un coup, on voit uniquement ça sur F1 2021 sur les jeux vidéo.
Ouais. Ouais.
Oui, ou insérer aussi un commentaire de Gaulle d'un commentateur latino-américain aussi.
Oui, exactement. C'est carrément ça. C'était un très beau dépassement. Et à côté, tu avais Hamilton et Ocon qui se sont touchés. Mais rien de grave là-dessus, en fait. Je pensais que l'aileron allait... le côté de l'aileron avant d'Hamilton allait partir. Mais finalement, non. Donc, Ocon a gardé la deuxième place. Hamilton, troisième. Et... au tour suivant, Hamilton a été capable de dépasser le Français. Mais vraiment, ça a été un départ très bien réussi et même une relance réussie de la part de tout le monde, si on peut dire.
Oui, comme il reste une voiture, les probabilités sont qu'il y ait moins d'instants, mais on s'est fait avoir parce que quelques instants plus tard, on a vu un Yuki Tsunoda rentrer dans Sébastien Vettel. Qui a passablement dommagé sa voiture. Et à partir de là, Sébastien Vettel a vu sa journée juste s'aggraver au fil des tours. On pourra relever notamment plus tard l'incident entre lui et Kimi Raikkonen.
Oui.
Kimi Raikkonen, qui n'a aucune idée de ce qu'il faisait là à ce moment-là. Il était exactement au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est de sa faute là-dessus. Je suis un petit peu étonné qu'il n'y ait pas eu de pénalité là-dessus, Kimi Raikkonen, parce qu'il était sur l'extérieur, c'est passé à l'intérieur, Sébastien Vettel, puis clairement, il n'y avait pas la place. Là-dessus, je pense que la faute revient à Kimi Raikkonen, mais bon, c'est son avant-dernier Grand Prix, Sébastien Vettel, tout un petit peu déçu de sa performance aujourd'hui, mais ça s'est juste très, très mal passé. Et donc, au fil de ces incidents-là qu'on a vu avec Sébastien Vettel, on a vu des morceaux s'étaler sur la piste. De plus en plus. Et ce qui rappelle beaucoup du NASCAR, parce qu'il y a certains endroits où il y avait carrément des pièces qui formaient une chicane mobile. On l'a vu notamment avec une des pièces dans un des virages où Max Verstappen s'est tassé vraiment au dernier instant possible. Lewis Hamilton a un petit peu plus de temps parce qu'il a vu la voiture zigzaguer, donc a compris qu'il y avait un problème à cet endroit-là. Mais donc on a vu deux, trois voitures de sécurité virtuelles. Passablement longue aussi. Je me serais même attendu une voiture de sécurité, en fait, régulière sur la piste pour s'assurer que l'ensemble des pièces soient éliminées. Mais non, on a préféré parier sur la voiture de sécurité virtuelle. Mm-hmm. Un avis là-dessus? Parce que moi, je trouve que c'est une mauvaise idée.
Voiture de sécurité, carrément. Juste pour ramasser les débris, parce que on a vu un commissaire de piste... passer directement, écoute, c'était bien exécuté et tout, mais je pense que la voiture de sécurité aurait été une bonne idée pour, disons, prendre le temps de ramasser le plus vite possible les débris sans nécessairement ralentir avec un drapeau rouge la course qui était déjà longue en passant.
Oui, parce qu'à ce moment-là, ça faisait déjà plus d'une heure trente que le Grand Prix avait commencé. Avec les deux rouges, ça ralentit beaucoup la chose. Mais il me semble, parce qu'on réduit les voitures de la vitesse de 40%, mais il reste des voitures partout sur le circuit à ce moment-là, donc on ne peut pas nécessairement tout le temps nettoyer la piste, ce qui a sans doute tué un peu le rythme de ce Grand Prix, à mon avis.
Oui, oui, effectivement, ça a carrément tué... le rythme était déjà tué avec deux drapeaux rouges, c'est juste exact. La suite qui était à prévoir. Écoute, c'est surtout la voiture de Vettel. Et je suis même surpris qu'on n'ait pas, décidé de retirer la voiture de Vettel plus tôt que prévu, parce que, écoute, elle était presque en limbo avec l'accrochage avec Tsunoda, dont la pénalité de 5 secondes était entièrement méritée, et celui avec Kimi Raikkonen. Donc... Je comprends pas du côté d'Aston Martin pourquoi on a décidé de le garder un peu plus longtemps. Si sa voiture allait amener des débris un peu plus en piste, surtout dans l'éventualité où je regarde le classement, Lance Stroll, il a fini 11e. Certes, il était loin de Lando Norris, mais Stroll, dans la situation où il partait en avant. Lui et Vettel partaient en avant-dernière ligne.
C'est une qualification catastrophe. Catastrophique.
Et le fait d'avoir une course telle qu'on a vue, ça aurait pu lui permettre d'aller chercher des points, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Exact. Et donc là, on arrive au Grand Prix du jour, à la polémique qui va faire tâche pendant plus de 20 ans encore.
Oh my
C'était
God.
Quel tour à Doom? Tu l'as noté?
J'ai pas noté parce que ça venait de, je suivais la course de partout, Facebook, Twitter, Messenger, Discord, j'ai carrément oublié c'était quel tour.
Donc on arrive je pense au tour du 33e, quelque chose comme ça.
Ouais, à peu près.
Brake testing, it's Baku all over again, les amis. Donc visiblement on est en train de dire à Max Verstappen de, faudrait que tu comme lui laisses la place ou tu ralentisses pour lui redonner le temps que tu as gagné par rapport à l'incident qui s'est passé quelques tours auparavant. Donc, semble obéir, ralentit. Se trouve, lui, sur le côté droit du circuit, sur la ligne droite des stands, enfin, en approche de la ligne droite des stands, et Hamilton ne comprend pas trop la situation. Je l'aurais pas mieux compris que lui, à mon avis. Je pense que c'est assez bizarre. Et essaie de donner un coup. Il vient pour donner un coup d'accélérateur, sauf qu'en même temps, Verstappen n'accélère pas non plus, rentre dedans. Et donc là, on arrive à Lewis Hamilton qui nous dit « Brake testing, ce mec est fou, il a sans doute essayé de me tuer. » On peut sans doute penser aussi que Lewis Hamilton a dû penser cette chose-là. Et donc là, on arrive à cette polémique qui fait en sorte que « A-t-il voulu faire ça de façon intentionnelle? »
Je pense qu'il y a eu confusion de la part des deux. Évidemment, il faut mettre aussi dans le contexte que les deux s'approchaient de la... Je pense qu'ils étaient proches de la zone de DRS aussi. Oui. Ben, de la zone d'activation du DRS ou de détection, si je me souviens bien.
La zone d'activation, parce que la zone de détection se fait au virage 26.
OK.
Avant le virage 26.
Avant le virage 26, OK.
Donc... 26-25, là, avant cette ligne droite qui est un virage, là, un double virage.
Donc... Moi, je pense qu'il y a eu confusion. Je crois que Max voulait vraiment le laisser passer, mais tout en gardant l'avantage pour obtenir le DRS ou de se défendre si tel est le cas. Puis Lewis, ben, je crois qu'il attendait le signal pour lui dire « Ah, Max va le laisser passer. » Je crois que, personnellement, c'est juste une confusion. Il n'y avait rien de malicieux. Je ne crois pas que Hamilton a voulu causer une collusion avec Verstappen. Je ne crois pas que Verstappen a fait un break test. Mais ça a été une catastrophe dans les deux cas. On a entendu aussi Ron Meadows, on pourrait dire le bras droit de Toto Wolff chez Mercedes, être en beau fusil envers Michael Massey, parce qu'il avait reçu l'ordre de Michael Massey de dire « Il faut que Max laisse passer Lewis. » Et le temps que Meadows dise aux ingénieurs d'avertir Lewis que Max va le laisser passer, ben boum, il y a eu l'accident, donc...
Ouais, c'est là qu'on arrive à un certain manque de communication. Et l'instant, juste pour rappeler, c'est au 38e tour où Max et Lewis se sont rentrés dedans. Parce qu'au tour précédent, Hamilton a essayé de dépasser Verstappen au virage 1 et 2. Et Verstappen a encore une fois coupé comme il avait fait lors de la première relance. Donc, ce qui amène une certaine problématique au niveau de la communication, c'est qu'elle n'est pas bidirectionnelle ou elle n'est pas tridirectionnelle dans la mesure où c'est la FIA qui parle à une équipe à la fois et l'équipe peut uniquement parler à la FIA. Si la FIA avait pu parler aux deux équipes en même temps pour se mettre l'air sur la stratégie à faire, je pense pas qu'on aurait eu cette polémique. Mais là, par le temps qu'on donne l'information à l'un, qu'on retourne vers l'autre, qu'on donne l'information à l'autre, c'est que le premier, pendant ce temps-là, transmet encore une fois l'information. Donc, ça déboule, ça joue par un effet de boule de neige. Sauf que des fois, il y a des gens aussi qui peuvent avoir posé d'autres questions. Donc, par le temps qu'on traite la première demande, il faut retourner à l'un et à l'autre, ce qui fait en sorte que c'est très compliqué. Et on est arrivé à cet élément-là, à mon avis.
Oui, effectivement. Et écoute, avant même ce... Avant même que cet incident ne se produise, il faut qu'on parle de la tentative de dépassement d'Hamilton sur Verstappen qui a mené après à cet incident. Moi, je pense que la pénalité de 5 secondes à Verstappen, et je l'ai même dit en privé dans notre groupe du bulletin GP sur Messenger, elle était méritée. La pénalité de Verstappen était méritée parce que il a gagné un avantage. Oui, il a essayé de se défendre, mais il était hors piste et il est revenu carrément à sa position, mais un peu plus loin devant Hamilton. Donc, il aurait dû ralentir en quelque sorte. Et c'est quelque chose, comme je disais, qui s'est vu avec Johan Daruvala samedi lors de la deuxième course de Formule 2. Justement, il s'est pris une pénalité de 5 secondes pour la même offense, au même endroit en plus. Donc ça, pour moi, c'est clair et net. Maintenant, l'incident, le contact... Je ne vois pas à qui on voudrait blâmer ça. Je pense pas que les pilotes ne sont pas nécessairement à blâmer parce que je pense qu'ils voulaient, avoir tous les deux le DRS. Mais je pense qu'il y a eu un énorme manque de communication autant de la part de la FIA. Bon, la FIA peut-être a fait la chose à faire. Mais le temps était assez rapide pour faire l'exécution. Alors, vraiment, ça a été du beau n'importe quoi. Puis là, en ce moment, au moment où je te parle, Hamilton dit qu'il y a eu un brake test. Je ne pense pas encore. Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais présentement, les deux sont au bureau des commissaires pour expliquer ce qui s'est passé. Normalement, c'était prévu pour 23h40, heure locale. Là, ça a été repoussé à minuit, puis je pense qu'ils se parlent encore. Donc, écoute.
Oui, parce qu'il faut savoir qu'au moment où on enregistre, il est 16h24, heure de l'Est, sur la côte Est nord-américaine. Sky Sport nous a dit, donc il est passé minuit là-bas, Sky Sport nous dit que le verdict est toujours attendu au moment où on se parle.
Donc, à moins qu'on décide de prolonger le podcast ou que mes problèmes de connexion Internet refassent surface, je ne pense pas que d'ici la fin, on aura une décision finale. Mais de toute façon, je mettrai la mise à jour sur nos réseaux sociaux à savoir est-ce qu'il y a eu une décision ou non, est-ce qu'il y aura pénalité ou non. Et toi, Jean-Sébastien?
Et donc, oui. Je pense pas que les pilotes soient assez fous pour faire un brake testing à 200 km/h ou à 100 km/h. Soyons francs, là. Ça va sans doute paraître pas assez vindicatif ou rentre dedans par plusieurs, mais j'ai sincèrement l'impression que c'est un manque de communication entre la FIA et plusieurs équipes et le message qui était mal placé et on a fait une action trop rapide, peut-être. Mais bon, c'est l'esprit de la course, ça se déroule rapidement et c'est difficile de pouvoir tout contrôler. Et on sait comment les deux pilotes sont ambitieux, pour ne pas dire autre chose. Ce qui nous amène à cet incident-là, donc j'ai de la misère à avoir une opinion claire, c'est vraiment ennuyant parce que dans ce genre d'éléments contrôlés où on aime donner une opinion, etc. J'en ai pas une qui est très claire parce que j'ai l'impression que c'est juste une faute plate de communication. C'est vraiment ennuyant. Certains auraient sans doute aimé qu'il y ait plus de batailles et de sang, mais je pense vraiment que c'est juste une très, très mauvaise... une très, très mauvaise situation de communication.
Oui, je suis d'accord avec toi. Puis, écoute, pour une fois qu'on pouvait avoir une bataille en piste très bonne entre les deux, ben, ça se joue encore au bureau des commissaires.
Mais moi, comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose que j'aime profondément dans ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que la Formule 1 se construit par des mythes où il y a des batailles complètement improbables, voire impossibles. Un Senna Prost, la façon dont ça s'est terminé deux années de suite dans les années 80-90, c'est un peu ça. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ça aussi. Ouais. Un Villeneuve-Schumacher 97 qui se finit dans des polémiques de fou, mais qu'on retient parce que ça fait partie du mythe de la Formule 1. Ce sont des mythes fondateurs qui permettent à ce sport d'avoir cette image. J'aime beaucoup ce que je vois, même si c'est assez laid. Dans 10, 15, 20 ans, on va s'en rappeler comme des grands moments de l'histoire de la Formule 1.
Ouais, je suis d'accord. Écoute, quand je disais c'est une des plus belles batailles que j'ai vues, mais qui est ruinée par des chamailleries de cours d'école, puis toute la toxicité qu'on retrouve sur les internets. Oui. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Non.
Non, on n'est pas surpris. Moi, c'est l'élément, par contre, que je trouve négatif. C'est pas tant une bataille de pilotes qu'une bataille de patrons en ce moment. C'est davantage un Christian Horner versus un Toto Wolff et des fans qui sont à cran, mais à cran comme c'est impossible.
Ouais, écoute.
Et j'ai l'impression que l'année prochaine, ça peut être pire avec George Russell.
Ouais, ça va péter en crise. Écoute.
Ça va péter.
Écoute, présentement, parce que, bon, si vous avez écouté le dernier épisode du podcast du bulletin GP, ben, je suis modérateur du groupe F1 Québec, puis écoute, ça déboule comme ça se peut pas, donc pensez au gars qui s'occupe de la modération aussi, mais...
Oui, c'est pas cool faire de la modération.
En ce moment, là...
Non.
Ça...
Et donc, si on revient au Grand Prix, Abdou, oui...
Oui. Non, c'est ça, oui, vas-y, on va revenir.
43e tour, Hamilton dépasse finalement Verstappen.
Oui.
Clean, propre, rien à dire là-dessus. Remporte le Grand Prix et se retrouve à égalité de points avec Max Verstappen. Et si le Grand Prix d'Abu Dhabi, les deux abandonnent, c'est Max Verstappen qui remporte quand même le championnat parce qu'il y a un avantage au nombre de victoires gagnées.
Et
donc, essentiellement, comme a dit notre cher ami Pierre Maillot et qu'on salue, comme dit Rabat, the winner takes it all au prochain Grand Prix.
Incroyable. Et je m'en remets. J'essaie de me remettre de son jeu de mots, là, parce que.
21 Grand Prix, et ça se finit comme ça a commencé au mois de mars. Celui qui finit devant, c'est lui qui gagne.
C'est ça. Et tu sais, si jamais les deux devaient abandonner, c'est Max qui gagnerait, ouais. Certes.
Exact.
Mais tu sais quel Grand Prix aurait été catalyseur?
Monza?
Non.
Non.
Belgique.
Quelle? Belgique. Oh! Oui, Belgique. Parce que si le Grand Prix avait dépassé 75%...
Ben non seulement ça, c'est parce qu'ils ont déclaré... Bon,
ils ont fait deux tours, parce que sinon, il n'y aura pas ramassé des points, puis il sera en retard, sinon vers Chapin. C'est vrai. Tout
ouais.
À fait. Ben, donc... oui, j'y pense. Oh! Mon Dieu.
Ah oui.
Aïe.
Écoute, t'imagines... Et dire que c'est dans une semaine en plus.
Ouais, c'est tout de suite, là. C'est tout de suite.
Écoute, j'aurais préféré qu'on se calme un peu, parce que je pense que ça ne sera pas le cas, mais non. Ça va être fou.
Donc, les deux sont à 369,5. Celui qui va chercher un demi-point en plus que l'autre est assuré de gagner le championnat. Verstappen a juste à... avoir le même nombre de points que Lewis Hamilton, c'est-à-dire zéro, et gagner le championnat pareil. Donc, on place le championnat... pour la première fois, le championnat depuis 2016 sera décidé au dernier Grand Prix. Tant mieux. Mm-hmm. Ça, c'est le fun. Ça veut dire qu'au moins, ce Grand Prix-là va devenir intéressant parce qu'à Abu Dhabi, on se souviendra la semaine passée, dans le dernier balado, moi, je l'ai mis dans les Grands Prix que je ne souhaite pas revoir parce que c'est pas un circuit super intéressant. Au championnat des constructeurs, par contre, là, visiblement, ça semble être plié pour Mercedes qui mène 587,5 face à 559,5 pour Red Bull. Là, là-dessus, avec 38 points d'avance, c'est fini, à mon avis. Il faut juste compter 5 points en plus.
Tu veux savoir qu'est-ce que Christian Horner a dit à propos de tout ce chaos?
Ah oui, allez.
The sport missed Charlie Whiting today. La F1 manque. Ça manquait de Charlie Whiting.
Ah oui, définitivement. Parce que lui, au moins, aurait pu trouver une solution, je pense. Michael Massey n'est pas mauvais. Je ne suis pas prêt à contester Michael Massey, mais il y avait beaucoup de choses aujourd'hui. Et Michael Massey, je pense, manquait juste un peu d'expérience.
Ouais, mais ça vient avec le temps, comme on dit.
Ça vient avec le temps. Je suis sûr que dans quelques années, Michael Massey, on va dire, il est très bon. Mais là, aujourd'hui, même les meilleurs, je pense qu'ils auraient beaucoup de misère. Je pense que même Charlie Whiting aurait pu avoir un petit peu de difficulté.
Ouais, mais écoute, ça a été quelque chose, ce Grand Prix. On va parler aussi de quelque chose qu'on a manqué. La poursuite entre Ocon et Bottas pour la dernière place sur le podium.
Oui, on ne l'a pas vraiment vu. On a manqué à l'avant-dernier tour. Il y a eu un châssis croisé entre les deux pilotes où Bottas a pu dépasser Ocon, mais Ocon a repris la tête. Donc, on ne l'a pas vu à l'écran. Je suppose que c'est au virage 1 et 2, mais c'était pas totalement clair. Mm-hmm. Mais Bottas a mis toute la gomme dans le dernier virage. Il a pu le dépasser par un maigre 102 millième. Et Bottas le savait qu'il avait dépassé. On l'a vu rapidement, le point élevé. Fier d'avoir terminé troisième. Donc, non, là-dessus, une très belle bataille à la fin, mais malheureusement, on ne l'a pas vu.
Ouais, donc, écoute, c'est quand même quelque chose d'avoir eu cette bataille, en fait. Parce que ça aussi, certes, Hamilton était déjà parti, en fait. Il était déjà parti vers la gloire. On aurait aimé ça voir.
Il y avait plus de 5 secondes d'avance.
Ouais. À moins qu'Hamilton ne fasse une erreur, OK, on aurait compris, on remet tout de suite. Mais Ocon Bottas, c'était pour la dernière place sur le podium. Alors, je comprends pas comment ça se fait que la réalisation ait manqué ça. À moins que ceux qui regardaient la bataille Ocon Bottas sur F1 TV dans la caméra embarquée d'un des deux aient pu la voir. Mais sinon, dans la réalisation générale, ça a été un flop.
Oh oui. Oh oui.
Écoute. C'était Monaco 2021, all over again.
Exact.
Ouais. Alors, heureusement pour Bottas, c'était un podium après une course un peu chaotique. Son départ raté, la première relance ratée, un peu de difficulté pour dépasser de Ricardo, ce qu'il a fait, et là Ocon au photo finish carrément. Et bon, au moins ça permet à Mercedes d'avoir un gros avantage dans la course au titre chez les constructeurs, qui va se jouer évidemment à Abu Dhabi. Donc c'est quoi, je pense que c'est 38 donc c'est quand même assez important dans la... C'est assez important et je crois que Mercedes devrait, en principe, à moins d'une catastrophe
monumentale,
devrait être champion pour une 8e année consécutive. Jean-Sébastien...
Erreur, c'est 28 points. Tu as raison. J'ai dit une grosse niaiserie. C'est moi qui ne sais pas calculer. C'est 28 points.
OK, c'est 28. OK, donc effectivement, c'est 28. Donc, d'après toi, Jean-Sébastien, je sais que tu l'as dit ouvertement. Est-ce que Jeddah, on le garde ou non? Ben, évidemment, on sait que ce ne sera pas là pour... évidemment, on dit qu'ils vont aller à Qiddiya en 2023. Au moins, donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais...
Jeddah revient tôt en 2022. Hein? Il revient en deuxième ou troisième Grand Prix, donc il revient très, très rapidement.
Ouais, deuxième Grand Prix.
Est-ce qu'on le garde, hein?
Ouais, ben en fait,
non.
Non. Mais est-ce que tu as apprécié le circuit en tant que tel?
Non.
Non, hein?
Non, je ne l'ai pas apprécié. Éliminons toutes les polémiques et les accidents qu'il y a eu, là. Il y a eu combien de dépassements aujourd'hui?
Ouf, bonne question. Pas beaucoup.
Pas beaucoup. pas beaucoup. C'est pas un circuit qui est très intéressant. Il y a une citation de Christian Horner qui vient de sortir et je suis malheureusement un peu d'accord avec lui. Il nous dit « Le secteur 1 est plus anglais sur le pilote, alors que les secteurs 2 et 3, c'est une question de moteur. Tout le monde peut conduire sur une ligne droite. »
Ouais, et c'est vrai, je suis d'accord avec lui. C'est une ligne droite complètement modifiée, là.
Oui, c'est juste des virages, mais on reste à fond la caisse. Et ça donne pas des opportunités de dépassement incroyables. À la limite, Singapour a plus de chances de dépassement, mais c'est pas un circuit qui donne particulièrement envie. Je redoute la prochaine fois qu'on va y retourner. La dernière fois, on va y retourner, en espérons-le qu'on y retournera qu'une autre fois en mars à avril pour cette prochaine édition du Grand Prix d'Arabie Saoudite, mais je m'attends à ce que le résultat soit sensiblement le même avec des nouvelles voitures.
Ouais, mais avec moins de chaos, je l'espère.
Espérons-le, parce que c'était, comme tu as dit en début de balado, c'est un pur shit show, ça.
Ouais, écoute, et même Alonso qui a dit, je pense, avec tous les débris qu'il y avait, on a besoin d'une voiture de sécurité. Est-ce que Michael nous écoute? Le circuit est dans les pires conditions qu'on a eu ce week-end. On a eu, évidemment, il extrapole une centaine de drapeaux rouges et maintenant on roule sur un circuit comme ça à 300 km/h.
Oui, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir en Formule 1, on l'a vu là.
Oui, effectivement, écoute, ça a été carrément vraiment compliqué, et surtout dans la situation où on dénonce justement tous les droits, tout le bafouage de droits humains en Arabie Saoudite, excuse-moi. Et là, il y a eu beaucoup de pression pour que Justin Bieber, qui est en spectacle en ce moment même, annule son show et qu'il se concentre à travailler sur les Team Beeps. Je ne sais pas si tu les as goûtés, mais...
Je m'intéresse très peu à l'actualité de Justin Bieber.
OK. Donc, c'est une bonne chose, mais... mais écoute, ce Grand Prix aura été controversé du début jusqu'à ses premiers tours de piste. Et comme je l'ai dit aussi, qu'un circuit soit homologué une journée avant les débuts des essais...
Inacceptable.
C'est inacceptable. Écoute, c'est comme si je te disais, certes, j'ai construit une patinoire de hockey prête pour accueillir la LNH une journée avant le début du match. Et te dis, OK, c'est correct, mais... Il va y avoir quelques modifications à faire. Il arrive quoi que ce soit, c'est pas grave.
Deal with it.
Écoute, ça a été du n'importe quoi. Et évidemment, je pense que les infrastructures restantes vont être finalisées de construire. Pour le Grand Prix de 2022, au moins, ça va leur donner un peu un avantage. Mais écoute, moi, personnellement, ce circuit... C'est beau sur un tour lancé, mais pour un Grand Prix, je pense pas que j'ai vraiment envie de voir une course comme celle-là, encore une fois. Là.
Non, vraiment pas. On vient d'apprendre, ça vient de sortir, il n'y a pas d'action supplémentaire entre l'incident de Charles Leclerc et de Checo Pérez.
Ah, tu m'as fait peur! Je pensais que c'était pour les deux.
Non, c'était entre Leclerc et Perez.
OK. Donc, ça, au moins, c'est réglé.
Ça, c'est pas si grave, parce que pour moi, c'est un incident de course.
Ouais, ça, c'est clair. Et justement, on allait passer justement à ce qui s'est passé un peu plus tôt ce matin en Formule 2. Et accident effroyable.
Grosse frayeur.
Il y a eu... Bon, Théo Pourchaire a eu sa voiture calée. Et il y a Enzo Fittipaldi qui, en essayant d'éviter le tout, a malheureusement percuté l'arrière de la Hart GP de Pourchaire. Les deux ont été transportés à l'hôpital et je viens de voir un tweet de Pourchaire passé pour dire que il va globalement bien. Pour le moment, il ne sait pas si c'est la fin de la saison pour lui parce que la Formule 2 va retourner. La course à Abu Dhabi la semaine prochaine. Mais globalement, il va bien. On attend encore des nouvelles de Enzo Fittipaldi, qui, lui, a été transporté à l'hôpital par hélicoptère, mais il était conscient au moment du transport. Donc, au moins, c'est une bonne nouvelle. Mais on espère qu'il n'y aura rien de grave aussi pour Enzo Fittipaldi. Mais selon Sky Sports, l'impact aurait été de 72G.
Ouais. Et l'impact de 72G est violent d'un côté, mais heureusement, les voitures sont beaucoup plus sécuritaires parce qu'on se souviendra, comme je disais plus tôt en balado, un certain Ricardo Paletti, le 13 juin 1982, est mort dans un accident identique sur le circuit Gilles Villeneuve.
Ouais. Écoute, et avec un feu terrible en plus de ça.
Ah oui, le feu en plus de ça qu'il a pris, mais. À mon souvenir, je pense que Paletti était mort sur le coup.
Ouais.
Parce qu'il bougeait pas.
Ouais, exactement. Je pense que c'est le cas. Je pense que c'est le cas, en fait, mais je pourrais pas vraiment le dire. Mais on a évité un drame de très peu, mais ça a été... Et ça a causé, évidemment, un drapeau rouge, mais aussi la réduction de la distance de la course, parce que
ils étaient en retard sur le Grand Prix.
En retard sur le Grand Prix, sur les cérémonies, en plus, pour rendre hommage à Sophie Williams, la parade, évidemment. Et, dans tout ça, Oscar Piastri a gagné la course principale, mais avec la moitié des points, donc ça veut dire... Ce qui voulait dire qu'il ne pouvait pas être sacré champion à Jeddah, parce qu'il lui fallait 18 points de plus que Guan Yuzhou. Mais il aura la chance de se reprendre à Abu Dhabi parce qu'il a 51 points et demi d'avance parce qu'on a attribué la moitié des points pour la course principale. Il a 51 points et demi d'avance sur Guan Yuzhou. Et normalement, le maximum que tu pourras avoir, c'est 52. Donc, à moins que quelqu'un fasse... Une remontada de fou sur la sprint 2, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui... Je ne pense pas que Zhou sera en mesure d'aller chercher 52 points et que Piastri n'en marque pas, à moins qu'il déclare forfait ou quoi que ce soit. Mais Piastri devrait être champion. Il a même gagné la course de sprint 2, justement avec un dépassement sur Rehan Daruvala, qui a été déjà pénalisé pour justement avoir gagné un avantage sur le Néo-Zélandais. Et parlant de Néo-Zélandais, Marcus Armstrong a gagné la toute première course sprint. Les deux courses, je dois dire, étaient très bonnes. Il y avait de l'action coup sur coup, mais le feature, le principal, était beaucoup plus terrible. Et c'est ce qui a marqué, en fait... Est-ce que je pourrais dire une journée... C'est pas une journée noire, mais une journée très difficile sur le circuit de Jeddah, à tous les sens du terme.
Oui, oui, c'est... On ne retient pas beaucoup de choses de positives de cette journée ou de ce circuit.
Ouais, exactement, donc...
Et on a vu aussi droit à un petit peu de greenwashing de la part de la Formule 1, disant que en construisant le circuit, les autorités locales ont nettoyé la lagune et ont planté 2000 arbres. Wouhou! On a sauvé la planète.
Ben écoute, ça a été du greenwashing tout au long de la saison.
Oui, oui, oui.
Oh, écoute, la Formule 1 veut bien faire, mais à chaque
non,
fois...
Non, on ne les prend pas au sérieux. Hein?
Non, 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 non. Écoute, si je te disais que en 2021, on a assisté à des shit shows. Jeddah, c'en était un. Belgique en était un autre. En IndyCar, Nashville, ça a été... Je me souviens, j'ai regardé la course en rediffusion. Ça a été une catastrophe terrible. Le premier Grand Prix de Nashville en IndyCar était un shit show aussi. Écoute, j'aime le circuit, mais la course était de la vraie marde. Et je ne... Et je, et je, Et je pèse sur mes mots, c'était de la vraie merde. Et je crois que... Et je pense que Jedi va se retrouver aussi comme le plus gros shit show dans la course automobile en 2021.
Juste.
Je sais pas à quel point, mais écoute... évidemment, moi, mes pensées, j'ai oublié de dire, mes pensées vont envers Enzo. Je lui souhaite un prompt rétablissement parce que 72G, là, c'est.
Ouais, ça fait mal.
Ça fait très mal.
Combien il avait eu Romain Grosjean encore l'année passée?
Ouf, c'est une bonne question, je me souviens plus.
On était dans plusieurs dizaines, nous aussi.
Ouais, je pense qu'on était. Je crois que c'était dans ces. Plus que. Je pense que c'était plus que 40 à peu près. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui veut me confirmer le tout, feel free. Parce que je
67G.
Pense... Oh! OK, on n'est pas loin, là. On n'est pas loin. Donc, voilà, c'est... voilà, donc, ouais. On va essayer...
C'est un Grand Prix qui passe à l'histoire pour les mauvaises raisons, mais bon.
Merci.
Il est terminé. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'en va au dernier Grand Prix de la saison et on va couronner un champion du monde.
Oui, en espérant que c'est en espérant que ce soit le plus propre possible et que ça ne se décide pas sur justement des décisions de commissaire de piste de commissaire pardon.
Je peux pas parier que ça va être propre.
Non. Enfin.
Mais bon, c'est le dernier Grand Prix, c'est un petit peu normal que ça soit un petit peu moins propre. Donc, je pense qu'un Grand Prix qu'on va apprécier beaucoup, le départ est donné à 8 heures, sauf erreur.
Oui.
La semaine prochaine, voilà. Donc, on revient à la bonne vieille heure régulière de la Formule 1, le départ à 8 heures. Et oui, ça va être excitant possible.
Souhaitons-le. Alors, je vais vous donner tout de suite, avant de vous donner nos prochains rendez-vous, en fait, le classement des pilotes. Donc, c'est clair, il y a égalité maintenant entre Max Verstappen et Lewis Hamilton avec 369 points et demi. Nice.
Et bris d'égalité avantageant aussi Max Verstappen, disons-le, si ça se termine égalité.
Exactement, avec 9 victoires contre 8 pour Hamilton qui en a 8. Valtteri Bottas a 218 points et officiellement. Va terminer troisième, puisqu'avec l'abandon de Sergio Perez, ben, il y a un écart de 28 points. Donc, Bottas va terminer l'année en troisième place. Charles Leclerc passe maintenant devant Lando Norris au cinquième rang. 158 contre 154 pour... donc, c'est avantage Leclerc sur Norris. Carlos Sainz se rapproche aussi avec 149 points et demi. Daniel Ricciardo est huitième avec 115 points. Pierre Gasly à 100 points pile. Et Fernando Alonso complète le top 10 avec 77 points. Et Esteban Ocon, grâce à sa quatrième place, est maintenant à 5 points de Alonso. Au championnat des constructeurs, maintenant, on sait que ça va se jouer entre Mercedes et Red Bull. Je crois que c'est un secret de polichinelle. 587 points, on l'avait dit, c'est 28 points d'avance que Mercedes a sur Red Bull. Ferrari, à moins d'une catastrophe, devrait s'assurer de la troisième place au championnat des constructeurs. Et ça, c'est un chapeau à l'écurie qui a fait une belle remontée.
McLaren, ouais, 28 points d'avance sur McLaren.
Imagine, donc 28 points, c'est pas encore décidé, mais Ferrari est à un cheveu de réaliser l'exploit de terminer troisième. McLaren en chute libre depuis quelques Grands Prix est à 269 points.
Depuis Monza?
Oui, depuis la victoire de Ricciardo à Monza, chute libre carrément. Alpine maintenant a un gros avantage sur AlphaTauri, 149 contre 120. Aston Martin a autant de points que Fernando Alonso, 77.
Oh, ouch!
Je dis ça, je dis rien. Williams reste avec 23 points. Les deux points, et je tiens à profiter pour saluer Julien s'il nous écoute. Le Jésus de la Formule 1 avec ses deux points permet à Alfa Romeo d'avoir 13 points. Et Haas, malheureusement, en a zéro.
Williams, disons juste une chose. Williams est huitième au championnat des constructeurs, c'est à cause de la Belgique.
Oui. On parlait justement de Verstappen si jamais il devait gagner.
Mais constructeur, Williams est devant Alfa Romeo à cause de la Belgique.
Eh oui, effectivement. Et
Il y a 10 points d'écart, ils sont là, les 10 points.
Et voilà. La deuxième place de George Russell a changé carrément la donne et Alfa Romeo est encore en furie après la décision de la FIA. Ça, c'est clair. Alors, notre prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine pour l'après-course du Grand Prix d'Abu Dhabi qui va décider qui, entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, sera sacré champion. Alors, évidemment, on sera là après le Grand Prix, le dimanche même du Grand Prix, pour vous amener le tout, en fait. Et évidemment, n'oubliez pas qu'à la fin de l'année, on a la revue de l'année le 31 décembre pour revenir à froid, Dieu merci, sur cette saison folle de Formule 1 avec un invité spécial dont on taira le nom. Jean-Sébastien?
Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit, moi.
Ah, OK. C'est bon. On a un invité spécial la semaine pour la revue de l'année.
Un vrai fan de Formule 1.
Un vrai fan de Formule 1. Donc, je vous laisse deviner c'est qui, si vous êtes capable. Mais sinon, il y a Histoire de F1 qui est en préparation aussi. Donc, au cours des prochaines semaines, ça devrait sortir. Donc, l'épisode ainsi que les autres sont disponibles sur toutes vos plateformes de balado diffusion préférées. Retrouvez-nous aussi sur bulletingp.com si vous voulez lire les avant-courses chroniques. Et j'en profite aussi même pour faire un dit et pensé pour revenir sur sur un genre de mini-revue de l'année dans le monde de la course automobile aussi. Alors, bulletingp.com et on est disponible sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletingp. Jean-Sébastien, un énorme merci d'avoir été là.
Un grand plaisir.
Effectivement, puis je crois qu'on va aller se calmer après une telle mascarade. Donc, merci d'avoir été là et évidemment, je crois qu'il n'y a pas de nouvelles supplémentaires. Donc, on conclut là-dessus. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve la semaine prochaine pour l'après-Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est ça, d'Abu Dhabi. Salut tout le monde!